Allô?
Allô, c'est moi.
Salut.
Devine quoi? J'ai retrouvé Surcouf.
Sérieux? Je croyais que t'avais lâché l'affaire. On n'en a plus parlé depuis des semaines. Tu m'as même pas répondu quand je t'ai dit que j'avais fait des recherches généalogiques.
Ouais, désolé. C'était un peu long parce que j'ai contacté le consulat d'Algérie, puis les archives d'Alger. Et figure-toi qu'il avait le journal de bord de Surcouf.
Non, ils ont bien voulu te dire ce qu'il y avait dedans?
Bien, ils ont accepté de me le scanner.
Excellent. Et qu'est-ce que ça dit?
Je sais pas encore, je t'attendais. Passe à la maison, on le lira ensemble.
Je suis là dans 1 heure.
janvier 1829. Et voilà, je suis remercié comme un vieil homme après des années, des dizaines d'années de loyaux services à la couronne de France. Je ne peux pas dire bon et loyaux services car on ne m'a pas toujours demandé de faire dans la dentelle, j'étais corsaire. Sans doute pas le meilleur, mais mon audace plaisait au roi. Après toutes ces années donc, me voici presque piéton. Ma merveilleuse Provence m'a été arrachée sous prétexte qu'elle ferait un superbe navire diplomatique. La lettre, la simple lettre, qui me congédie, salue mes qualités de combattant, mais affirme que je ferai un piètre ambassadeur. On m'a donc jeté à terre. Ma Provence, on lui a fait retirer ses 44 superbes canons, et nommé comme nouveau capitaine un homme affable, niais et lâche, Valdemar de la Bretonnière. La Bretonnière est un mauvais marin et un épouvantable combattant. On aurait pu me remplacer par un cochon que je n'aurais pas trouvé cela plus insultant. Pour adoucir mon chagrin, le roi m'offrit tout de même une belle petite goélette à hunier, maniable et très rapide, la Renarde. Pensait-il que j'allais me contenter de cette jolie chaloupe et passer le restant de mes jours à pêcher au large de l'Estaque? Pourquoi Charles X a-t-il fait ça? Parce qu'il a en tête à la fois une cible et une crainte nommée Hussein-Dey. Le régent d'Alger est riche à millions, à tel point que le trésor de la Casbah a la réputation de déborder par les soupirails. Il était aimable prêteur, jusqu'à ce que la France oublie de lui rembourser un emprunt colossal. Le roi a donc besoin d'envoyer un ambassadeur calmer les tensions avec Alger. Pourquoi avoir choisi un imbécile pour cela? Dieu seul le sait. Tout ce que je peux dire, c'est que le choix du bateau est de bon goût. Mais quel gâchis! 10 février 1829. J'ai ruminé ma frustration quelques jours, puis j'ai pensé que tout de même, mes compétences ne méritaient pas un tel traitement. Si la France ne veut plus de moi, alors tant pis. Je reprendrai bientôt la mer, et je l'écumerai pour mon compte, pour moi et pour moi seul. La Renarde est un bon petit navire, mais tout juste pour de la rapine ou du cabotage. La Provence me manque cruellement. J'ai donc eu une idée, ma foi excellente. Si tu ne peux pas avoir la petite sœur, prends donc la grande. Mon bâtiment possède ce que les Anglais appellent un sister ship, une sœur jumelle, qui nous a été ravie par la Royal Navy. Or, la Proserpine, puisque c'est son nom, parcourt la Méditerranée à la recherche de bonnes proies françaises. Elle chasse nos navires de commerce. Mais elle navigue sans relâche depuis longtemps. Sa coque doit être pleine d'algues, son gouvernail rongé par le sel. Elle est bien moins rapide qu'avant. 1er mars 1829. De Marseille, j'ai migré vers Toulon. La belle Phocéenne était ma cité de cœur, mais pour ce que j'ai en tête, c'est la rebelle, la Finaude, la truande toulonnaise qu'il me faut. Marseille est une ville d'armateurs, de pêcheurs et de corsaires, alors que chaque Toulonnais est un pirate dans l'âme, et on dit qu'ils peuvent nager 1000 brasses sans faiblir, le coutelas entre les dents. J'ai traîné dans les tavernes du quartier Saint-Louis, et je sais déjà que je n'aurai aucun mal à recruter quelques ruffians ambitieux et sans vergogne. 25 mars 1829. Va-t-elle venir? Mes informations sont-elles bonnes? Avec les gars, nous guettons chaque jour le large depuis le sommet du Cap Sissier. Elle va finir par se montrer, j'en suis certain. Je la reconnaîtrai entre 1000. Elle ressemble tellement à sa sœur. Environ 50 mètres, 3 mâts de chêne blanc, une coque bleue nuit, ornée d'un liseré doré qui encadre ses 18 sabords. Je sais qu'elle va venir, la perfide Albion.
15 avril 1829. Mon informateur ne m'a pas menti. Depuis le début du printemps, le HMS Proserpine, sans doute repu d'une énième prise commerciale, a jeté son ancre à quelques encablures de notre poste d'observation. 800 brasses, grand maximum. Juste après l'idiot de la lune qu'est la Bretonnière, ce que je déteste le plus, ce sont les Anglais. 800 brasses. Il fallait prévoir plus large face aux nageurs de Toulon, mes mignons. 17 avril 1829. La Bretonnière est bien placée dans la liste des idiots, mais finalement, les Anglais le sont bien davantage. Le combat n'a duré que quelques secondes, ils étaient endormis et probablement tous ivres. Nous les avons tant surpris en montant à bord en pleine nuit qu'ils ont tous préféré rejoindre Sissi à la nage. Ils vont donner l'alerte, bien entendu, mais pas avant de s'être remis de l'effort. L'Anglais est un bon marin, mais une pitoyable sirène. Une fois le navire acquis, nous avons mis le cap vers Porquerolles. Comme je le pressentais, la Proserpine est usée par ses trop nombreuses campagnes de brigandage. Mais une fois remise en état, cette belle frégate redeviendra une redoutable chasseresse. Jean jubile d'avance.
1er juillet 1829. Mes hommes n'ont pas chômé. Malgré les multiples négligences infligées par l'anglais, la Proserpine a retrouvé ses traits de jouvencelle. Tout est prêt pour notre départ. Nous sommes résolus à écumer les côtes italiennes plusieurs semaines durant. Je suis certain d'y faire notre fortune, car l'endroit regorge de navires marchands. Je ne suis finalement resté piéton que quelques mois. Pourtant, l'idée de reprendre la mer me confère une joie indescriptible. 2 juillet 1829. Ce matin, depuis le pont, une vision angélique m'a soudainement détourné de mes tâches. Voilà que la belle Provence, toute voile déployée, est entrée dans la rade de Toulon. Nul doute qu'elle va ici préparer son périple vers Alger. Ses peintures sont neuves, ses menuiseries savamment polies, ses maçons huilés. Elle est plus belle que jamais, avec sa superbe cariatide à la proue que j'avais, moi, si minutieusement choisie. Comment ai-je pu l'oublier si vite? Dois-je vraiment laisser une telle blessure impunie? Ne puis-je pas saisir cette incroyable occasion pour me venger? Ou simplement mettre un soufflet sur le vilain nez de cette mortadelle de la Bretonnière? Juillet 1829. Je suis parti cette nuit avec quelques hommes, mes meilleurs menuisiers, à bord de la Renarde pour rejoindre la rade. La Provence est en panne au pied de la tour royale. Je pensais connaître la trop grande confiance en lui de la Bretonnière. J'imaginais que l'imbécile était capable de n'avoir laissé personne assurer la surveillance du navire. Que voulez-vous? Je suis un optimiste. En réalité, nous n'avons rencontré que quelques marins somnolents, ainsi que le second lieutenant, dont le visage m'était agréablement familier. Son nom m'est revenu tout de suite, Gus le Breton. Le jeune homme servait déjà sous mon commandement, à bord de la Provence. Un garçon plein d'entrain, mais aux dents longues. Il semble que passer de la société civile à la marine royale lui a permis de monter en grade. Je ne voulais pas engager le combat, et encore moins face à un ancien camarade. Je l'interrogeais donc sur ses souhaits. Que pouvais-je lui offrir pour gagner son adhésion à ma petite entreprise ? La réponse fusa comme une balle, c'était la Renarde ou l'alerte générale. J'ai cédé immédiatement, que m'importe ce joli canot, je n'aurais de toute façon pas su quoi en faire dans l'avenir. Ravi de son acquisition, Gus le Breton m'a remis le pavillon diplomatique dont il avait la garde, et a disparu avec son maigre équipage, nous laissant seuls sur le pont. Le saviez-vous? Armé de bons pieds de biche et de couteaux aiguisés, une sculpture de bois, ça se dérobe très bien quand on sait y faire. Mes hommes ont travaillé toute la nuit pour arracher la figure de proue et la charger en silence sur notre goélette. Dans moins d'une semaine, le vénal lieutenant devra rallier Porquerolles pour récupérer la Renarde et nous serons, nous, déjà au large. J'aimerais être une souris pour voir demain matin la tête de la Bretonnière lorsqu'il verra qu'il manque un petit quelque chose sous le mât de Beaupré. Quant au pavillon, il est si bête qu'il n'aura peut-être même pas remarqué son absence. 24 juillet 1829. Installer la figure de proue n'a pris que 2 jours. Il en faudra bien plus à la Bretonnière pour en trouver une autre. De mes voyages, j'ai découvert un type de poudre tout à fait intéressant, particulièrement chargé en soufre. Inspiré, je me suis empressé d'en faire le plein, ainsi que de plusieurs centaines de livres de mitraille. Nous avons fermé les sabords en signe de pacifisme et remplacé le pavillon anglais par celui fraîchement dérobé. Un courageux mousse est resté suspendu sous le tableau arrière pendant des heures afin de repeindre avec application les lettres dorées qui formaient le nom de Proserpine. L'illusion est parfaite, l'Algérie n'attend plus que nous. Si le vent est favorable, nous ne mettrons que 3 jours pour traverser. 28 juillet 1829. Nous sommes entrés en baie d'Alger au petit matin. Avec quelques marins de confiance, nous avons débarqué et nous sommes présentés comme les sémillants émissaires du roi de France. J'ai essayé d'avoir l'air le plus idiot possible pour coller au personnage. Qui a dit que je ferais un piètre diplomate? Pour une soirée, je peux faire cet effort. La Bretonnière étant annoncée, nous n'avons eu aucun mal à être guidés jusqu'à la Casbah pour rencontrer le dé d'Alger. Je pense avoir vu de nombreux endroits somptueux dans ma vie, mais il faut bien admettre que sous les voûtes de la salle d'honneur de la Casbah, j'ai éprouvé une certaine culpabilité à me jouer ainsi du régent. Hussein-Dé a eu l'obligeance de nous accorder l'hospitalité pour la nuit. Il n'a pas manqué de nous faire l'éloge de sa province, de ses richesses et de sa culture. L'homme est vaniteux, et il a sans doute raison, sa fortune semble colossale. Pas étonnant qu'elle suscite les convoitises.
Hussein déplore un fait étrange. Il possède essentiellement de l'or et voudrait diversifier ses biens. Aussi, il commerce activement avec l'Orient afin d'acquérir des tissus précieux, des animaux exotiques ou des œuvres d'art. Imprudent autant que vantard, il me confie au détour de la conversation qu'une caravane doit d'ailleurs prendre la route au petit matin. La nuit venue, mes hommes et moi avons arpenté furtivement les couloirs de la Casbah. Nous pensions dérober notamment les luxueux objets qui ornaient les meubles, mais la petite caravane chargée d'or évoquée plus tôt me chatouillait l'esprit. Parvenus dans la cour intérieure, nous avons effectivement repéré quelques hommes affairés à l'équipage de lourds chariots. Des chevaux et du bétail patientaient quelques mètres plus loin. Il a suffi d'effrayer une jument pour créer une diversion facile. Nous nous sommes rapidement emparés d'un gros coffre qui était resté un peu en arrière et avons disparu dans la nuit. Notre chargement était pesant, mais ça n'était pas le plus gros des coffres, loin s'en faut. Nous sommes revenus à nos chaloupes. Mes hommes étaient satisfaits, mais pas moi. Je ne les ai pas laissés à leur joie. Le coffre à peine chargé, j'ai ordonné que l'on fasse un autre voyage. Mon second a froncé les sourcils. Je note ici les mots qu'il a prononcés, car ils ont transpercé mon cœur. Même Poséidon ne saurait étancher ta soif. Tu en veux trop, et cela te perdra. J'ai ignoré ces atermoiements. Le temps n'était alors pas à la philosophie. Il a rejoint la Proserpine à bord de la première chaloupe, et je suis reparti avec la moitié des hommes. Lorsque nous sommes revenus dans la cour d'honneur, les serviteurs de Hussein semblaient chercher le coffre manquant. J'ai jeté un regard à mon équipage. Ils étaient inquiets. Je sentais leur confiance disparaître. Tentant le tout pour le tout, je me suis glissé près des bêtes. J'ai planté mon coutelas dans le jarret du premier bœuf venu. Outre le beuglement de douleur, l'animal a été pris de panique et a foncé vers la sortie, provoquant à sa suite la débâcle de tous ses congénères. Voilà qui devrait occuper un moment nos adversaires. Nous nous sommes précipités vers le plus gros des coffres et dans un effort surhumain l'avons tracté dans l'ombre d'une ruelle. Nous étions 6. 6 hommes dans la force de l'âge. Je n'ai jamais rien soulevé d'aussi lourd. Il nous a fallu 5 heures entières pour amener le coffre jusqu'à la chaloupe. À une rue seulement de notre objectif, nous avons été surpris par 4 gardes lancés à notre poursuite. Je n'étais pas venu ici pour verser du sang, mais leur laisser la vie sauve signerait notre arrêt de mort à tous. J'ai tiré mon sabre au clair et j'ai chargé. À cet instant, je n'étais même pas certain que mes compagnons me suivraient. Fort heureusement, ils le firent. Le combat fut bestial, car nous ne pouvions pas en laisser un seul en réchapper, et ainsi indiquer notre position. Les bougres se défendaient fort bien. Nous arrachâmes la victoire, mais dans la douleur. J'ai reçu pour mon compte une blessure fort disgracieuse en haut du crâne qui m'aveuglait tandis que mon propre sang coulait dans mes yeux. Le jour commençait à se lever, et le temps nous manquait désormais cruellement. Arrivé au port, j'ai cru que la chaloupe ne tiendrait pas. J'ai même forcé 2 hommes à rentrer à la nage pour ne pas risquer de couler. Alors que nous ramions comme des forcenés pour rejoindre notre mouillage, Alger s'est illuminé d'un seul coup. Des cris, des ordres donnés, des torches qui s'embrasent de toutes parts. Voilà, ils ont compris. Nous n'avons plus que quelques minutes pour rejoindre la Proserpine. Sur le pont, ils ont déjà levé l'ancre et abattent pour prendre le vent. J'ai placé mes mains en porte-voix avant d'hurler. « Mettez bâbord en batterie !» Mon second avait désapprouvé mes choix quelques heures plus tôt, mais il exécute maintenant mon plan à la lettre. Les canonniers d'Alger n'étaient pas prêts. Ils n'auront pas le temps de faire parler leurs engins. Ce sont les fusiliers qui m'inquiètent, car ils peuvent abattre nombre de mes hommes en un rien de temps, sur le navire comme dans la chaloupe. Heureusement pour cette dernière, les rameurs ne ménagent pas leur effort. À l'ordre du second, les 18 canons bâbord rugissent toutes leurs mitrailles en direction des remparts. Les petits projectiles ricocheront sur les murs, mais l'important, c'est la fumée. La fameuse poudre chargée en soufre répand une épaisse fumée jaune qui dissimule désormais entièrement la Proserpine, nous protégeant ainsi de la majorité des tirs. Alors que l'on vire pour présenter le flanc tribord, nous autres rameurs approchons de la dunette. Depuis la chaloupe, quel magnifique spectacle de voir tous les sabords s'ouvrir simultanément. Cela a un goût encore plus savoureux lorsqu'on sait que ces canons étaient anglais il y a quelques semaines. Dans un rugissement d'enfer, les batteries tribord se chargent d'épaissir encore notre bouclier de fumée. Le temps s'écoule trop vite. Nous n'échapperons finalement pas à la première salve de canon. Mais à l'instant où le formidable coffre est tissé jusqu'au pont, les gabiers ont achevé leur œuvre. Toutes les voiles se gonflent soudainement. Élégante, la Proserpine s'appuie sur sa hanche et prend le vent 3 quarts arrière pour ne plus montrer que notre cul à USND. Alger enrage. Ses boulets ricochent sur l'eau à une vitesse folle, mais sifflent de part et d'autre de la coque. Si la scène s'était déroulée à Toulon, nous serions morts depuis longtemps. La baie est ici trop large, le feu croisé y est impossible. Bye bye, mon cher Hussein. Nous filons à l'anglaise. La Proserpine est aussi merveilleuse que sa sœur. Nous serons donc hors de vue avant même que le dé affrète sa première frégate.
29 juillet 1829. Une voile à l'horizon. Un ostentatoire pavillon tricolore. C'est la bretonnière qui va entrer en baie d'Alger d'ici quelques heures, avec son air niais, son sourire satisfait et sa figure de proue toute neuve. J'en ris tellement que je manque plusieurs fois de passer par-dessus bord. Tout à sa mission, il n'a aucune raison de prêter attention à une frégate qui croise au large, sans le moindre signe d'hostilité. Hors d'atteinte, nous avons enfin ouvert les coffres, et ce ne fut pas une tâche aisée. Hussein me doit 2 haches de très bonne facture. Mais il semble que je lui doive bien davantage. Les coffres sont intégralement remplis de lingots dorés, frappés de différentes provinces d'Afrique du Nord. De l'or. Uniquement de l'or. Mes hommes sont sidérés et je suis moi-même sous le coup de l'émotion. J'avais en tête une petite canaillerie, une rapine provocante, mais sans gravité. J'ai sous les yeux des millions et des millions de francs. Il y en a tellement que j'aurai jamais assez d'une vie pour tout dépenser. 3 août 1829. Je dois me rendre à l'évidence. Les faits sont trop graves. Hussein fera payer très cher une telle infamie. Je n'aimerais pas être l'ambassadeur de France à cet instant. J'éprouve moi-même de la honte, car la somme est colossale. Un jour, je devrais écrire à la bretonnière, lui expliquer ce qu'il s'est passé. Et que faire de ce fabuleux trésor? J'ai pensé à le rapporter au roi en échange de la restitution de la Provence. Mais non, il serait injuste qu'un tel trésor profite à une France qui n'a jamais rien fait pour le mériter. Et puis, j'ai la proserpine, désormais. Je ne peux pas non plus le rendre à l'Algérie, faute de quoi, ma tête se retrouverait au bout d'une pique. Alors quoi? J'ai questionné mes hommes. Que faire de la preuve irréfutable d'un fait gravissime qui engage la France? Le scandale sera immense et les lingots frappés deviendront impossibles à écouler. Cela m'a coûté, mais nous avons convenu d'y renoncer. Mais comment? Où cacher 30 millions de francs pour que cette fouine de la bretonnière ne mette jamais les mains dessus? Depuis presque 200 ans, lorsqu'il s'agit de dissimuler un secret, les marins toulonnais ont le cynisme de suggérer « sur la lune ». Elle est devenue la cache de tant de navigateurs coupables que je plains désormais la personne qui l'explorera en premier. Tous les secrets de la France vont-ils s'y retrouver? Nous avons tout mis dans des sacs de jute. Une fois à la bonne place et au sacrifice d'un canon, nous avons regardé notre trésor disparaître. J'ai gardé le grand coffre pour le souvenir et j'ai offert à mon équipage une part substantielle de ce qui fut ma dernière aventure. 30 août 1829. Quel idiot je fais. Même en faisant disparaître le trésor, j'ai agi trop vite. En effet, quelques mois plus tard, j'ai mesuré l'ampleur de mon méfait. Je voulais briller, montrer au roi que ma mise à terre était une erreur, montrer à la bretonnière que la Provence est à moi ou n'est pas. À la place, j'ai provoqué ce qui est peut-être l'incident diplomatique du siècle, et ainsi donné un prétexte, si j'ose dire, en or, pour favoriser la conquête de tout un peuple. C'était peut-être exactement ce que Charles X voulait. Impossible évidemment de récupérer le trésor. Mais j'ai la ferme intention de traverser à nouveau la Méditerranée et de remettre mon journal à la grande bibliothèque d'Alger. Peut-être qu'un jour, l'homme aura les capacités d'explorer la Lune. Peut-être que les biens d'Alger seront restitués. Peut-être ainsi que l'histoire retiendra mon nom. Mais comme le plus grand imbécile qui ait jamais navigué.
C'est... Wow. La raclure !
L'ampleur de sa connerie. 30 millions. À l'époque, c'est énorme. Mais enfin, comment l'Algérie a pu garder sa secret si longtemps?
Bah, ils allaient pas se vanter de s'être fait dépouiller comme ça, si?
Sûrement pas. Enfin, quand même, c'est incroyable.
T'imagines la tête du roi qui pensait mettre la main sur 80 millions? Il en manquait un sacré morceau.
Et cette histoire de lune, là? C'est complètement idiot. Ils auraient jamais pu expédier quoi que ce soit sur la lune.
C'est peut-être une métaphore? Genre un lieu particulier où la lune se reflète dans l'eau lorsqu'elle est pleine?
Alors pourquoi le canon?
Ouais. Bon bah peut-être que c'est vraiment pour expédier le trésor sur la lune du coup.
Non mais arrête ton char. Un canon du 19e siècle, ça n'a pas du tout la puissance pour envoyer quoi que ce soit sur orbite.
Ce qui est certain, c'est que le trésor n'a jamais été trouvé.
On en aura entendu parler, j'imagine.
Mais aujourd'hui, la lune, on l'a explorée depuis longtemps.
D'accord, mais je suis sûre que c'est pas du satellite dont on parle là.
Alors qu'est-ce que c'est?
À la Seine, il y a la place de la lune, je crois. Juste au bord de l'eau d'ailleurs.
Je vois pas le rapport avec le canon, alors.
Attends, tu te souviens de ce que nous disait mamie? Avec son père à elle, ils avaient passé des étés entiers à explorer des plages, des îles, même des grottes pour trouver un trésor.
Je prenais ça pour un jeu. Pourquoi elle nous a rien expliqué? En plus, elle nous a un peu fait la même avec ses histoires. J'aurais jamais pensé qu'elle cherchait vraiment quelque chose.
Depuis presque 200 ans, lorsqu'il s'agit de dissimuler un secret, les marins ont le cynisme de suggérer « sur la Lune ».
Qu'est-ce que ça veut dire ?
C'est très clairement un truc de marin.
Une fois à la bonne place et au sacrifice d'un canon, nous avons regardé notre trésor disparaître.
L'équipage parvint à calfater juste assez les brèches pour tenir jusqu'à Toulon, malgré des voiles en lambeaux et un grand mât privé de la moitié de ses haubans.
Dis, tu sais que j'ai cherché et que la bretonnière, c'était son arrière-arrière-grand-père à mamie ?
Ça explique pourquoi grand-papy connaissait l'existence du trésor.
Mais c'est fou qu'en 160 ans, personne n'ait rien trouvé.
C'est d'ailleurs là-bas que j'ai caché le fruit de mon erreur, dans une obscurité suffisamment profonde pour y dissimuler ma honte.
Différentes rumeurs et ragots qui, pour certains, remontaient à l'époque du Roi Soleil.
Je souhaite qu'un jour un homme soit capable de retrouver les preuves de ma culpabilité. Mais je crois que nous ne connaîtrons ce bonheur, ni vous, ni moi.
Oh là là !
Quoi ?
C'est une épave.
Quoi ?
C'est une épave, je te dis. La Lune. C'est un bateau.
Hein ?
Sûrement un bateau connu de tous les marins de Toulon. Peut-être même un truc qui a coulé il y a des siècles.
Oh ! Mais c'est pour ça qu'elle a jamais été trouvée. Mais oui ! Mais tu crois qu'elle a été explorée depuis ?
Comment on peut le savoir ? Internet ?
Et je tape quoi ? Épave ? Lune ? Toulon ?
Ouais, vas-y.
Toutes les épaves sont de fabuleuses machines à rêve. Voilà, toutes les épaves, quand on s'y intéresse, elles font fantasmer, elles font rêver. Et la Lune, elle fait partie d'un petit lot qui s'isole de toutes ces machines à rêver. Elles sont un peu hors du temps.
La rade de Toulon est le théâtre de nombreuses légendes marines, souvent liées à l'histoire tumultueuse de la ville et alimentant sa qualité de place stratégique. L'histoire de la Lune compte parmi les plus mystérieuses.
Mais la ville et ses environs sont également très imprégnés des conséquences de la conquête de l'Algérie au XIXe siècle, qui a bien eu lieu sous le drôle de prétexte d'un coup d'éventail donné à l'ambassadeur de France. Il était également question de renflouer les caisses de l'État, mais malheureusement, une part significative du trésor algérien avait déjà disparu à l'arrivée des Français.
La Lune est effectivement une épave, un vaisseau de guerre de 34 canons appartenant à la flotte de Louis XIV, écoulé au large de Toulon en 1664. Son équipage est parfois décrit comme maudit, car la Lune a coulé à pic au cours d'une mise en quarantaine, le navire étant suspecté de transporter la peste. Les circonstances rocambolesques de ce naufrage ajoutent encore à la part de légende entourant ce navire.
L'épave a été découverte par hasard en 1993. Le module sous-marin de l'Ifremer, le Nautile, célèbre pour ses explorations du Titanic, effectuait une simple plongée test. C'est la vue des pièces d'artillerie parfaitement alignées qui a alerté le pilote du Nautile. La Lune gît par 90 mètres de fond et fait encore aujourd'hui l'objet de nombreuses missions archéologiques menées par le ministère de la Culture. En 2025, c'est d'ailleurs le module autonome Ariane qui a été envoyé explorer la Lune.
Notre petite histoire est uniquement le fruit de notre imagination. Car en réalité, les 30 millions du trésor de la Casbah n'ont jamais été retrouvés. Nous avons simplement trouvé amusant de les dissimuler depuis tout ce temps, aux côtés d'un véritable monument de l'archéologie sous-marine.